Europe Matin.
Le 7-9.
Mathieu Béliard.
Bonjour Hélène Zélani.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Vous êtes sur Europe 1, écoutez le monde changer. Il est 7h.
Nous avons décidé de reporter la date du Black Friday, si cela permet de rouvrir les commerces avant le 1er décembre.
Le Black Friday, c'est OK. Le patron d'Amazon France accepte donc de reporter la grande opération de promo qui devait commencer dans une semaine. Ça permettra aux commerçants de rouvrir, eux, dès le 28 novembre. Une victoire pour Bruno Le Maire et un nouveau protocole plus strict à mettre en place. On vous explique tout ça dans un instant et on appellera le directeur général du groupe Etam pour savoir ce qu'il en pense. La loi sécurité globale, les députés examinent aujourd'hui l'article qui fâche, le 24, celui sur la diffusion d'images de policiers. Finalement, Gérald Darmanin va proposer un amendement pour garantir la liberté de la presse. Dans ce journal, les aveux glaçants de Jonathan Daval hier lors de son procès. Et puis sauver une vie, ça peut être simple comme un coup de fil.
Je suis fier de l'avoir fait parce que si j'avais pas appelé, je pense qu'on aurait appelé les pompiers trop tard.
Vous entendrez Paul, 12 ans, le héros du jour.
Juste après ce journal, va-t-on manquer d'électricité cet hiver? L'éclairage éco de Nicolas Barré, le regard international de Vincent Hervouette. Et puis ce choc du championnat féminin de football PSG Lyon au Parc des Princes dans un contexte de polémique autour de la sélectionneuse des Bleus, l'édito sport de Virginie Fulpin, avant de retrouver Stéphane Bern pour notre rendez-vous d'histoire. Très bon réveil à tous sur Europe 1.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Pas de Black Friday dans une semaine après Carrefour, Leclerc et Système U. C'est donc Amazon qui accepte de reporter sa grande opération de promo. Son PDG pour la France l'a annoncé hier soir sur TF1. Bonjour Carole Ferry.
Bonjour.
Alors d'abord, vous allez nous raconter les coulisses de cette décision. Il y a une semaine, on disait que reporter le Black Friday, ce n'était pas possible. Et là, miracle, ça le devient.
Oui, enfin un petit miracle bien orchestré quand même. En fait, c'est Bruno Le Maire qui a pris personnellement le dossier en main. Mercredi, il a d'abord appelé le patron d'Amazon France pour voir s'il y avait une demi-chance de réussite. Le lendemain matin, hop, il y avait un représentant d'Amazon à la table des négociations. Un signe fort pour tous les autres. Hier, il a également appelé le patron de Carrefour, Alexandre Bompard, lui-même, pour s'assurer que tout le monde allait suivre. Au final, un coup de poker réussi. Mais la plus grande victoire, on pourrait dire, c'est qu'il a joué en affichant une forme de réconciliation entre la grande distribution, le commerce en ligne et les petits commerçants, hein, puisque ils vont peut-être pouvoir rouvrir grâce à leur ennemi juré.
Carole, est-ce que ça veut dire que les magasins vont pouvoir rouvrir dans une semaine?
En tout cas, ce report était une condition indispensable. Avec le Black Friday, il y avait trop de risques sanitaires, trop de risques de voir les gens se ruer sur les promotions en magasin. Donc ça, c'est réglé. Maintenant, il y a aussi la question du protocole sanitaire. Des négociations sont prévues ce matin. Ça, ce sont deux conditions donc absolument nécessaires, mais pas forcément suffisante. Ce qui sera vraiment déterminant, bien sûr, c'est la courbe de l'épidémie. Réponse définitive, donc, avec Emmanuel Macron la semaine prochaine. Mais on peut dire que les planètes sont quand même très, très bien alignées.
Mais vous nous disiez qu'il reste aussi le problème du protocole sanitaire à régler. Qu'est-ce qui coince?
C'est la jauge. Actuellement, vous devez avoir 4 mètres carrés par client. Le gouvernement voudrait passer à 8, voire 10 mètres carrés. Ça veut dire moins de clients dans la journée. Et puis, il y a la question des horaires d'ouverture. L'Alliance du commerce voudrait que les magasins puissent ouvrir tous les dimanches jusqu'à Noël. Aujourd'hui, certains maires l'interdisent. Et le soir, jusqu'à 22h. Là encore, la législation est plus compliquée à partir de 21h. Ça nécessite donc des dérogations. La journée s'annonce encore bien chargée.
Bonjour. Merci Carole Ferry.
Bonjour Laurent Melchior.
Bonjour.
Vous êtes le directeur général du groupe Etam et vous êtes en direct ce matin dans le journal de 7h d'Europe 1. Alors on l'imagine, la réouverture de vos magasins, probablement la semaine prochaine, c'est une bonne nouvelle. Est-ce que vous allez demander à pouvoir ouvrir plus tard le soir, plus tôt le matin, le dimanche peut-être d'ici à Noël?
Je pense que ce qui est important, et ça a été dit dans tout vos reportages, c'est de tenir un protocole sanitaire ferme, mais surtout au niveau global et au niveau national, que l'épidémie ne reparte pas avec l'ouverture des commerces et comme l'avait dit Bruno Le Maire plusieurs fois, avec le contrôle des flux de population. Et donc ça va être vraiment très important. Alors moi, je suis pour l'ouverture du dimanche. C'est déjà le cas dans beaucoup de villes, quelques week-ends avant les fêtes, mais de généraliser au maximum sur une ouverture tardive. Les avis sont un petit peu partagés. Moi, je pense que Monsieur Véran, notre ministre de la Santé, nous l'a dit hier, le déconfinement n'aura pas lieu. Hein, donc, il y aura la possibilité d'aller faire du shopping, mais pas de déconfinement. Donc, je pense qu'il y aura quand même des contraintes en fin de journée pour que les gens ne se retrouvent pas chez eux et fassent des fêtes et se rejoignent. Donc, je pense qu'il faut qu'on soit tous raisonnables. En fait, le Amazon l'a été. Bruno Le Maire a beaucoup poussé pour qu'on puisse réouvrir les commerces et on peut le remercier. Maintenant, il faut qu'on arrive à tous trouver un modus operandi assez raisonnable pour que l'épidémie, on est quand même à 20 000 cas par jour, ça reste stable au minimum.
Vous évoquiez Amazon. Est-ce que, en gros, dans votre secteur, on peut dire que c'est Amazon qui décide, il dit oui au report et du coup, c'est oui pour tout le monde?
Je pense que pour certains acteurs, le Black Friday, c'est extrêmement important. Ça l'est moins pour des acteurs de lingerie comme nous. C'est vrai que Amazon, c'est le driver du Black Friday. Hein. Le Black Friday, c'est un peu comme le 11-11 d'Alibaba.
Donc, mais pardonnez-moi, c'est parce qu'il a dit « nous décalons le Black Friday », pas le Black Friday sur Amazon. C'est le patron d'Amazon qui décide de quand est-ce qu'on fait des promos chez Carrefour aussi, en fait.
Bah, quelque part, oui, c'est sûr que le Black Friday, c'est d'abord un événement digital. Donc, le leader en digital, c'est Amazon. Donc, si Amazon décale pas le Black Friday, il perd de son intérêt pour les autres. Donc, ces promotions, elles fonctionnent un peu comme les soldes, en fait, quand tout le monde se met d'accord sur la même date.
Merci.
Sur le lit, après, ça marche moins bien.
Eh oui, merci Laurent Melchior, directeur général du groupe Etam. Merci d'avoir été l'invité du journal de 7h.
7h06 sur Europe 1. Olivier Véran a préféré se montrer prudent, on en parlait à l'instant. Le confinement n'est pas terminé, a dit le ministre de la Santé, même si les indicateurs s'améliorent.
Et l'arrivée des vaccins suscite évidemment de grands espoirs. L'Union européenne pourrait donner son feu vert dès le mois prochain à ceux de Moderna et de Pfizer. C'est ce qu'annonce la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen.
Avant d'être autorisés, tous les vaccins de notre portefeuille seront évalués comme il faut, avec toutes leurs données, par l'EMA, l'Agence européenne du médicament. Si tout se poursuit comme prévu, l'agence nous dit qu'elle pourrait délivrer l'autorisation conditionnelle de mise sur le marché des vaccins BioNTech et Moderna dans la deuxième quinzaine du mois de décembre 2020.
La présidente de la Commission européenne avec Isabelle Ory, après le sommet où les 27 ont évoqué la coordination de leur lutte contre la pandémie. Aux États-Unis, le labo Pfizer devrait déposer une demande d'autorisation de son vaccin ce vendredi, avec l'espoir de le commercialiser en décembre.
En France, l'Assemblée s'attaque aujourd'hui au fameux article 24 de la loi sur la sécurité globale. Article au cœur d'une polémique qui interdit de diffuser les images de policiers ou de gendarmes.
Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, est finalement obligé de reculer. Il va proposer un amendement pour garantir la liberté de la presse, une décision prise hier soir lors d'une réunion d'urgence à Matignon. Il fallait calmer le jeu, Adrien Beck.
Gérald a voulu pousser son avantage un peu trop loin, constat d'un ministre, résultat, une polémique avec l'opposition, une partie de la presse et même des membres de la majorité. Finalement, dans le rôle du pompier, c'est Jean Castex lui-même qui est intervenu, reprise en main très claire, réunion des responsables de la majorité hier soir à Matignon, et c'est Matignon encore qui a annoncé qu'un amendement serait présenté. Il mentionnera le droit d'informer avec l'espoir d'éteindre la polémique, lever les ambiguïtés, dit le communiqué. Gérald Darmanin avait pourtant défendu jusqu'au bout cet article dans sa version initiale. Il ne peut s'en prendre qu'à lui-même, il a été volontairement flou pour faire plaisir à ses troupes, constate un poids lourd du gouvernement. Avec cet épisode, Jean Castex, lui, tente de confirmer une nouvelle fois qu'il est aux commandes et que c'est bien lui et lui seul qui a le pouvoir de trancher.
Adrien Beck.
Le procès d'Aval. Dans moins d'une demi-heure, je reçois la mère d'Alexia, Isabelle Fouillot. La journée d'hier devant les assises de Haute-Saône a été particulièrement éprouvante pour elle et pour toute la famille.
Et oui, Jonathan Daval a raconté précisément dans quelles circonstances il avait tué sa femme, Arthur Elmbaché.
Je l'ai saisie par le cou, j'ai serré et quand j'ai senti qu'elle s'affaissait, j'ai lâché. Le président de la cour demande à Jonathan Daval « C'est la mort que vous vouliez ?» Ben oui. Qu'elle se taise à jamais ? Oui. Quand on étrangle quelqu'un comme ça, c'est pour donner la mort. Les parents d'Alexia pleurent et ce terrible aveu ne leur suffit pas, dit leur avocat Gilles-Jean Portejoie.
On a l'impression qu'il est ailleurs en fait, il est absent de son procès. Oui. On sait qu'il y a un massacre, les faits sont horrifiants. Et on ne sait pas pourquoi. On ne sait pas quel a été le phénomène déclenchant. C'est ça qu'on veut savoir.
Jonathan a tout dit. Il n'a pas d'autre vérité, d'après son avocat Randall Schwerdorfer.
Il a reconnu, si je l'ai bien entendu, l'intention homicide. Qu'est-ce qu'on veut de plus ? On veut la vérité ou on veut une histoire ? Il dit qu'il a voulu la faire taire, il dit qu'il était hors de lui, que tout est sorti à ce moment-là et que quand il a repris ses esprits, suite à ses coups et suite à son étranglement, elle était morte. Après, il faudra un moment aussi que les victimes l'acceptent. On n'ira pas plus loin.
Aujourd'hui sera entendu à la barre, entre autres, la mère de Jonathan Daval, Vesoul, Arthur Elmaché, Europe 1.
Et aujourd'hui également, dernier interrogatoire de l'accusé, première plaidoirie des avocats. L'audience a pris du retard. Le verdict ne sera donc pas rendu dans la journée, mais probablement demain. Quatre adolescents de 13 et 14 ans sont en garde à vue depuis hier à Bordeaux. Ils auraient reconnu des inscriptions menaçantes sur les murs de deux collèges de la banlieue bordelaise. Aux États-Unis, le recomptage est terminé en Géorgie et il confirme la victoire de Joe Biden avec un peu plus de 12 000 voix d'avance sur Donald Trump. Joe Biden qui dénonce, je cite, l'incroyable irresponsabilité du président qui refuse de reconnaître sa défaite.
Qui sauve une vie sauve l'humanité tout entière. Vous connaissez l'adage. Un garçon de 12 ans, grâce à un simple coup de fil, a sauvé celle de son voisin de bus.
Il s'appelle Paul, il est collégien en 5e et c'est justement en se rendant dans son établissement scolaire de Saint-Quay-Portrieux dans les Côtes d'Armor qu'il a vu ce passager en train de faire un malaise cardiaque. Personne ne réagissait, alors c'est lui qui a appelé les pompiers.
Il y a un monsieur qui commence à se sentir mal et il dit « j'ai un infarctus, appelez les pompiers ». Comme j'ai vu que personne ne le faisait et que le monsieur le répétait et qu'il avait l'air de vraiment pas se sentir bien, je l'ai fait. Une dame a décroché. Elle m'a posé des questions, son âge, sa date de naissance. J'ai demandé au monsieur, mais comme il avait un infarctus, c'était très compliqué de comprendre ce qu'il disait. Elle m'a dit, je vous passe le médecin. Il m'a demandé de le rassurer, donc j'ai rassuré le monsieur. J'ai raccroché avec les pompiers. J'ai dit au monsieur qu'une équipe était partie. Je suis sorti du bus, je suis parti en cours. On a revu avec les pompiers, ils ont dit que le monsieur avait été sauvé, avait été transféré à l'hôpital. Je suis fier de l'avoir fait, parce que si j'avais pas appelé, je pense qu'on aurait appelé les pompiers trop tard.
Voilà, il a de quoi être fier, hein, Paul, au micro de Jeanne Bergaoui. Il nous donne une belle leçon de civisme.
Ah oui. J'ai toujours une pensée dans ces cas-là, moi, pour les parents aussi, parce qu'eux aussi doivent être bien fiers de leur petit Paul, en l'occurrence. Vous avez entendu, ce sont incroyables témoignages de ce gamin de 12 ans qui a sauvé une vie. Hélène Zélani, merci beaucoup. C'était le journal de 7h sur Europe 1, 7h12.
Europe 1, Mathieu Béliard.